Très bien. Et je vais vous prier de vous lever. De vous lever pour la lecture de deux versets dans la parole de Dieu. Je lis dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18, c'est Jésus qui parle. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je lis un deuxième texte dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 24. Actes 20, 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Ça va être ça le titre du message. « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. » Père, voici ce moment précieux, ce moment spécial où nous allons partager courtement ta parole. Je prie pour que le peu qui va être dit, Seigneur, puisse entrer dans le cœur de ton peuple, qu'il puisse, Seigneur, trouver, prendre racine dans le cœur de ton peuple et que nous puissions être un peuple qui marche au son de ta voix, que nous puissions être un peuple qui fasse ta volonté, qui glorifie ton nom par notre façon de vivre, par notre façon d'être, par notre façon de te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous dis à l'avance que ça va être très, très bref, le message, parce que je veux qu'on laisse le temps pour l'Assemblée générale. Et c'est un message qu'il va ressembler comme une des redites, des répétitions de tout ce qui a été dit les deux, trois dernières semaines dans l'Église. Le premier texte, Jésus qui dit qu'il va bâtir son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Prévaloir, le verbe prévaloir, signifie simplement l'emporter sur quelqu'un d'autre. Prévaloir, l'emporter sur un autre, avoir avantage sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça sous-entend, ce terme? C'est qu'il y a une lutte. Qu'il y a une lutte, et c'est vrai. Il y a un ennemi que nous avons qui ne veut pas que l'Église porte des fruits. Un ennemi que nous avons qui va lutter, qui veut arrêter la marche, la bonne marche de l'Église. Nous avons cet ennemi, nous le connaissons et nous le voyons souvent à l'œuvre dans l'Église du Seigneur. Il divise, il casse, il sépare, il disperse. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Mais Jésus a dit, quel que soit le rôle de l'ennemi, les portes, tout ce qu'ils vont fomenter comme complot aux portes de ces jours-là, des morts, ça ne prévaudra point contre cette Église. L'Église est forte. C'est ce que Jésus veut annoncer. Il annonce une église forte. Mais le fait qu'il annonce une église forte n'exclut pas, bien-aimé, qu'à certains moments, que l'église puisse faiblir. Pour que l'église demeure forte, le Seigneur fait sa part, mais les membres de l'église doivent faire leur part aussi. Il arrive que l'église faiblisse. Il arrive que l'église, les membres de l'église se refroidissent pour des tas de raisons, qui peuvent être des raisons personnelles, qui peuvent être des raisons par rapport à ce qu'ils vivent dans la maison du Seigneur. Il peut y avoir des tas de raisons. Quelqu'un t'a dit un mot qui est mal, qui est de trop, qui est mal placé, pas à un moment bien indiqué, mais ça refroidit tout d'un coup quelqu'un. Et c'est ce que nous vivons donc présentement, pas dans notre église, heureusement. L'église va bien, je vais en parler tout à l'heure, à l'Assemblée générale, l'église va bien, mais ça se passe comme ça maintenant, un peu partout sur la planète. Vous le voyez comment? Comment vous voyez que l'Église, que les gens se refroidissent? C'est qu'il y a de moins en moins de fréquentation des réunions de l'Église. De moins en moins. J'étais en train de réfléchir à ça hier, j'ai dit, mais le nombre d'Églises qui veulent maintenant tout faire par Zoom, je vous assure que je n'ai rien contre Zoom. Mais la notion d'intimité, la notion de se tenir ensemble, la notion de rapprochement, elle tend à disparaître. On ne se connaît pas par Zoom. On ne se connaît pas par Zoom. Si vous êtes à l'église, vous êtes physiquement à l'église, vous pouvez voir dans le visage de quelqu'un qu'il passe par un temps difficile. Vous pouvez aller à côté, poser votre main sur son épaule et lui dire « Je te porte dans mes prières ». Sur Zoom, vous ne le savez pas. Parce qu'il y a même des gens qui cachent leur visage sur Zoom. Vous voyez juste le nom, mais vous ne savez pas ce que la personne vit. Ce sont des signes de refroidissement dans l'Église. Qu'est-ce qui a changé pour que les gens n'aiment plus la maison de Dieu? Mais c'est parce que les gens veulent donner plus de place à un confort. Je veux être dans... C'est quand ils suivent Zoom, ils peuvent être, je m'excuse de dire ça, ils peuvent être en pyjama, ils peuvent être dans n'importe quelle tenue, ils peuvent bouger, aller boire au frigo, ils peuvent aller, etc., etc. Il n'y a plus la notion de concentration, il n'y a plus la notion où on se concentre sur le Seigneur, on est distrait par beaucoup de choses. Je n'ai rien contre, parce que ceux qui font des réunions par Zoom vont s'en prendre à moi tout d'un coup en disant, « Ouais, ouais, lui, il est de l'arrière, la vieille classe, je ne sais pas quoi. » Non, il n'y a pas de vieille classe dans l'Église. Le Seigneur veut que nous soyons ensemble, que nous nous tenions ensemble. C'est comme si on disait, la famille qui a été éprouvée, on l'appuie par Zoom. Non, je ne peux pas, ça n'a pas de sens. La présence physique a un sens. Donc, on voit les signes de cet essoufflement, parce qu'il y a de moins en moins de fréquentation. Il y a la faiblesse dans la foi. Et même certains ont carrément abandonné la foi. La faiblesse de la foi, on ne croit plus que Dieu est capable de faire de grandes choses. Je bénis le Seigneur pour ton témoignage. Je bénis le Seigneur parce que c'était difficile ce qu'il a vécu. Tu as travaillé toutes les années, puis tout d'un coup, paf, le contrat finit. Et ça arrive à un moment où l'économie est en train de branler quasiment. Un peu partout dans le monde, on reçoit que des nouvelles. On coupe ici, on coupe là-bas, on coupe des postes, on coupe des postes. Et le Seigneur fait la différence pour ses élus parce qu'il nous aime, il nous aime. Donc, la faiblesse dans la foi, des gens qui croient que ce n'est pas possible. À mon âge, je ne peux pas faire ceci. À mon âge, je ne peux pas avoir ça. Non. Quand tu es enfant de Dieu, tu sais que tu as un Père puissant, grand et redoutable dans ses œuvres. Grand et redoutable dans ses œuvres. Donc, il y a aussi ce manque d'intérêt, justement, à tout ce qui est vie d'Église, qui est constant. Et moi, j'encourage souvent cette Église. Je dis, bien-aimé, nous devons trouver le temps. C'est une question de se faire violence. C'est une question de se faire violence. Si on ne se fait pas violence, on va trouver des occupations qui vont nous garder loin de l'Église. Mais c'est une question de se faire violence et d'être là, au moins une fois par semaine. Ça devrait être plus que ça, mais... On peut déjà commencer par une fois par semaine. Tout à l'heure, quand nous allons avoir notre Assemblée Générale, justement, ça va être le moment indiqué. C'est ça le but de l'Assemblée Générale, pour que l'Église s'exprime. Dis, pasteur, ce que vous nous demandez là, ce n'est pas possible. Moi, voici. C'est le temps de dire des choses comme ça qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe par rapport à ce semblant de ralentissement. Donc, c'est le lieu de donner des commentaires, des recommandations, pour que les choses changent, pour que l'Église demeure forte. L'Église demeure forte. Ce n'est pas une affaire de pasteur seul. Ce n'est pas une Église de comité seul. Ce n'est pas une affaire de responsables seuls qui doivent veiller à ce que l'Église puisse être vivante et qu'elle aille de l'avant. Mais c'est une affaire de chacun de vous, de chacun de nous. Amen. Amen. Alors dans ma prédication du 3 mai notamment, que j'avais intitulée « Appelés, nous sommes appelés à être et à faire des disciples », j'avais parlé de la nécessité de prioriser les projets de Dieu. Les projets de Dieu doivent avoir une place dans notre cœur aussi. Les projets de Dieu pour cette Église doivent avoir une place et nous devons pouvoir les prioriser par rapport à nos propres intérêts. Pas toujours nos intérêts en avant, mais il y a des moments où les intérêts de Dieu doivent passer en avant et que nous puissions donc nous y appliquer et ne mettons pas toujours nos intérêts, nos propres intérêts au premier plan. Je voudrais ce matin justement relever quelques points, quelques facteurs qui sont à la base de cet état, de les sortes de léthargie qu'il y a dans l'Église, dans l'ensemble, pour que chez nous, nous puissions les éviter. Amen. Si vous êtes d'accord avec ça, nous allons donc en parler. Le premier point, une vie chrétienne n'est pas concevable s'il n'y a pas de consécration. S'il n'y a pas de consécration, la consécration coûte cher. La consécration coûte parce que je me mets à part. Je me mets à part. Si je me mets à part, c'est que je me prive de ce que tous les autres peuvent prendre comme temps pour leur plaisir personnel. Mais je dis, c'est le temps où je me consacre pour les choses du royaume. C'est le temps que je consacre pour que je cherche la face de Dieu pour que l'Église avance. Pour que l'Église avance, c'est tout le monde qui doit prier pour que cette Église avance. Il y a se donner, oui, mais il y a aussi prier. Alors, le manque de consécration des chrétiens, C'est dommage à dire, mais il y a des personnes qui viennent à l'église. C'est peut-être la mentalité ancienne où on nous inculquait, on va à l'église, c'est pour avoir des avantages. Je vais à l'église pour être béni. Je vais à l'église pour que le Seigneur m'ouvre les portes. Je vais à l'église pour... Non, je vais à l'église pour communier, pour adorer, pour louer, pour célébrer celui qui m'a gardé en vie, celui qui me donne le travail, celui qui me conduit dans les sentiers de justice. Je vais à l'église pour ça. Ce n'est pas uniquement pour les avantages. Ça vient aussi avec, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à faire des sacrifices que la consécration implique. La consécration coûte. Je me prive de sommeil. Je me prive des parties de plaisir. Mes amis m'attirent à aller faire ceci, à aller faire cela. Mais je dis non, c'est le temps que j'ai consacré à l'église et je dois y aller. Même si mes amis ne sont pas d'accord, même si mes amis ne sont pas contents, mais ma priorité, c'est de plaire d'abord et avant tout à mon Dieu. Amen. Le manque de consécration. Les gens ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas mourir, ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Oh, c'est la condition pour être disciple de Jésus-Christ. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Accepte de porter la croix. C'est lourd à porter. Et alors, tu vas pouvoir me suivre. Et les gens ne veulent pas mourir, ne veulent pas renoncer à eux-mêmes pour que l'Église puisse avoir un impact. Regardez la vie de tous les apôtres au début, l'Église primitive. Les gens ont souffert pour que l'Église arrive à faire ce qu'elle a pu faire. Ils ont accepté d'être humiliés, ils ont accepté d'être jetés en prison pour que l'Église puisse arriver au niveau où elle est arrivée. Et pourtant, Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 24, Jean 12, 24, « en vérité, je vous l'ai dit, Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, une très très belle image. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Tu peux le garder dans ta cuisine là-bas, le grain de blé va rester là, il ne va pas changer. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, dit Jésus, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Et Paul l'avait compris. Paul l'avait compris. Car malgré tous les liens, les temps qu'il a passé en prison, etc., malgré les tribulations qu'il attendait sur la route de Jérusalem, c'est le texte que nous avons lu dans Actes 20, il était sur la route vers Jérusalem. Malgré cela, il a montré, il s'est arrêté à Éphèse et il a parlé aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur a donné un des secrets. Pour une vie chrétienne fructueuse, c'est de mourir à soi-même. Il dit, moi je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est extrême ça. Je vis pour Christ. Tout ce que je dois faire pour Christ, je le fais. Je ne fais aucun cas de moi-même comme si ma vie était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie. C'est dur, mais je le fais avec joie, pour que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Il le montre aux anciens d'Éphèse pour les encourager à porter l'œuvre de Dieu, à demeurer ferme. Donc le jour où on comprend ce secret, qu'il faut mourir à soi-même et qu'on le met en pratique, bien-aimé, vous êtes sûr d'avoir un impact certain. Et je vais vous dire que des personnes que moi j'ai connues au début de ma foi, qui m'ont marqué, c'est des personnes qui ne vivaient pas pour eux-mêmes. C'est des personnes qui vivaient vraiment pour Christ, qui ont donné toute leur force, de leur énergie, qui ont donné l'argent. Ils n'avaient même pas d'argent. C'est des gens qui marchaient des kilomètres à pied. La joie, c'était d'aller enseigner, d'aller fortifier l'église, d'aller édifier l'église. C'était leur joie. Ils rentraient à pied des nuits, à des heures tardives la nuit, sauf si quelqu'un pouvait penser les ramener. Il dit, il n'a pas d'auto, mais il vient de nous enseigner. Nous sommes bénis, nous sommes riches, mais tout le monde rentre chez lui et personne ne se soucie de savoir comment cette personne va rentrer. Les gens ont payé le prix sans rien demander, sans rien réclamer. C'est le secret, la vie de consécration. Un deuxième facteur que je voudrais énoncer ici, c'est ce que j'appelle l'isolement des membres. Vivre isolé. J'ai beaucoup aimé. Cette église, c'est notre famille spirituelle. Mais une famille, on l'entretient. Une famille, on y vit. Une famille, on s'y manifeste. Une famille, on se soucie de la situation de chaque membre de cette famille. On s'en soucie. Donc l'isolement des membres n'est pas une bonne chose, c'est un des facteurs qui est à la base de l'affaiblissement de l'Église. On ne partage pas assez entre frères et sœurs. Les gens travaillent en vase clos. Même quand ils travaillent pour le Seigneur, ils travaillent en vase clos au lieu de se compléter. Il n'y a personne qui a tout ce qu'il faut en lui-même pour que l'œuvre de Dieu avance. Non. Je suis fort parce que je travaille avec celui-ci qui est à ma droite, celui-ci qui est à ma gauche. Je suis fort parce que je me complète avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas tous les atouts, mais le Seigneur envoie des talents, il envoie des valeurs dans l'Église pour que quand on met tout ça en commun, ben à ce moment-là, nous arrivons à porter des fruits. Donc on ne peut pas donc travailler en vase clos et espérer faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc chacun devrait mettre au service de l'œuvre de Dieu ses forces pour combler les faiblesses de l'autre. Je suis pasteur, mais je ne peux rien faire tout seul. Il y a des choses que je ne sais pas faire. J'aime chanter, mais je ne peux pas conduire la louange, parce que là, je vais chanter faux à un moment donné. Je ne sais pas jouer aux instruments, etc., etc. Mais on a besoin des gens qui ont les talents musicaux, des gens qui peuvent chanter pour le faire, etc. etc. Donc, au service de l'œuvre, mettre nos forces pour combler les faiblesses de l'autre. Il peut y avoir des bonnes initiatives, et il y a de bonnes initiatives dans l'Église, mais souvent, c'est des choses qui sont prises de façon isolée. Ça ne nous aide pas du tout à avoir un impact qu'on devrait avoir. Regardez ce qui s'est passé à Antioche, au bruit, quand les gens de Jérusalem ont eu vent de ce qui s'est passé à Antioche, qu'il y a eu un grand nombre de conversions à Antioche, ils ont envoyé Barnabas pour aller voir ce qui se passe. Dans le livre des Actes, chapitre 11, le verset 23, il est dit ceci. Lorsque Barnabas fut arrivé à Antioche et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il a vu que ce mouvement, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose qui relève de la grâce de Dieu. Pour que des païens se convertissent en grand nombre, alors qu'il n'y avait pas grand monde de Jérusalem qui était parti là-bas, mais c'est l'action du Saint-Esprit, la grâce de Dieu qui a coulé sur cette ville, et ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il s'est réjoui de la conversion, alors que d'autres disaient, non, c'est pas possible que des païens comme ça se convertissent, alors que nous n'avions pas envoyé des délégations là-bas. Non, Dieu travaille comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et donc, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Rester attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Mais c'est ici que je voulais souligner quelque chose, au verset 25, c'est que Barnabas se rendit ensuite, il est parti ensuite à Tarse. Il est parti ensuite, il s'est rendu ensuite à Tarse pour aller chercher Saul de Tarse. On l'avait fait fuir là-bas parce qu'à un moment donné, on voulait le tuer. Il est reparti dans sa ville natale, dans son coin de pays. Et Barnabas l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Lui, il aurait pu dire, je vois la grâce de Dieu dans cette église, les choses vont bien. Et même quand je suis là, le monde continue à affluer, le monde continue à être augmenté dans l'assemblée. Mais je veux prendre la gloire pour moi. Je vais rester là, je vais être le boss. Lui, il dit, ayant trouvé, il amena Saul à Antioche. Et pendant toute une année, ils ont travaillé ensemble. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Il y a eu le fruit de leur travail. On a vu des transformations dans la vie de ces gens. Qu'on les appelle des chrétiens, c'est que c'est comme des petits Christ, des gens qui sont attachés à Christ, qui sont les disciples de Christ dans le fond. Donc, c'était des chrétiens. Barnabas, donc, est allé chercher Saul parce que tout seul, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et pour ne pas limiter l'impact du réveil qui prenait place, il fallait renforcer. Il fallait qu'ils se tiennent par la main, les deux, et qu'ils avancent ensemble pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, évitons, comme deuxième point, l'isolement. Je ne veux pas faire des choses pour que mon nom soit cité, que mon nom avance, que on dise c'est lui qui fait. Non, Travaillons. Va chercher quelqu'un d'autre. Va chercher un frère. Va chercher une sœur, etc. Avec qui vous pouvez ensemble faire avancer plus vite l'œuvre de Dieu. Amen. Le troisième élément que je veux épingler ce matin, c'est le manque d'esprit de famille. Quand je dis ceci, je ne dis pas nécessairement que c'est chez nous, mais je veux éviter qu'un jour cela n'arrive. Le manque d'esprit de famille. Nous l'avons dit que l'Église est une famille où chacun doit se soucier du bien de l'autre, travailler pour le bien de tous. C'est ça l'Église. Je voudrais faire une parenthèse ici parce que je bénis le Seigneur pour ce qui se développe dans l'Église ces derniers mois ici. Chaque fois que je rentre chez moi, que j'entends un coup de fil qui me dit « Voici ce qui se passe avec telle famille qu'on a aidée, avec tel frère qu'on a visité, avec tel frère qu'on a conduit, à telle soeur qu'on a conduit à l'hôpital. » Ça bénit mon cœur. Ça bénit mon cœur. C'est des choses qui n'ont pas beaucoup existé les années d'avant. Nous nous sommes battus pendant des années, ça n'a pas existé. Mais depuis un temps, est-ce que c'est à cause du thème qui a été choisi, l'amour en action? Mais si c'est ça, mais cet amour en action doit être le thème de tout le temps. Ce n'est pas seulement pour cette année. Ça doit être le thème de tout le temps. Et laissez-moi vous dire que je vois cet accent qui a été mis sur l'amour en action porter des fruits et je bénis le Seigneur pour ce qui se fait dans l'Église. Ma prière seulement est que ce mouvement se poursuive, que ce mouvement s'étende, pour que l'altruisme justement puisse prendre place, qu'on puisse se soucier davantage de l'autre. Pas juste regarder moi, je suis fatigué, je ne peux pas. Non, il y a un temps où même quand tu es fatigué, tu peux aller donner un coup de main à quelqu'un qui est dans le besoin. Amen. C'est vraiment mon exhortation. Sur un autre plan, je voudrais montrer que nous avons tous des responsabilités. En étant membre dans cette famille, nous avons vraiment des responsabilités. Le pasteur, comme berger, a des responsabilités. Il doit s'occuper, non pas de sa promotion personnelle, et je parle des bergers de manière générale. Il ne doit pas chercher à s'occuper de sa promotion personnelle. Mais ce qu'il doit chercher, c'est le bien-être des brebis que le Seigneur lui a confiées. C'est le rôle d'un pasteur. Le pasteur qui ne joue pas ce rôle, mais qui, lui, fait tout pour qu'il soit élevé, et c'est ce qui compte le plus pour lui, il est passé à côté de sa mission. Pour que l'Église aille de l'avant, il doit avoir ce cœur de berger, s'occuper du bien-être de ses brebis, bien les nourrir, les soigner. Je parlais avec Donna dans l'auto tout à l'heure, on a souvent dit que le pasteur, en tout cas, ces temps-ci beaucoup moins, mais au début, le pasteur c'était un homme à tout faire. C'était l'ambulancier, le pasteur c'était l'infirmier, on venait lui poser des problèmes médicaux alors qu'il n'est pas médecin, c'était le conseiller matrimonial, c'était etc., je vais acheter une maison. C'est tout ça le pasteur. Les gens avaient tellement confiance dans le pasteur qu'ils allaient lui poser tous ces problèmes et il fallait qu'il trouve des solutions. Là, il ne sait pas, c'est à lui d'aller prendre l'information et enrichir les connaissances. Je le disais tout à l'heure. Donc, il doit bien nourrir, bien soigner les brebis qui sont à sa charge. Il doit veiller sur leur croissance, surtout leur croissance spirituelle. Et le prophète Jérémie a dénoncé justement en son temps les mauvais dirigeants qui égarent les brebis. Dans Jérémie 23, le verset 1er dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. » Malheur à ceux-là qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Et plus loin, au verset 32, il dit, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Par leurs mensonges et par leur témérité, je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité. Ah, c'est grave. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. C'est pas le genre de pasteur qu'il veut pour son Église. Il veut des pasteurs qui se consacrent. Ézéchiel l'a fait. Ézéchiel a fait un réquisitoire terrible dans Ézéchiel 34 qu'on ne va pas lire. C'est un sévère réquisitoire contre les bergers infidèles. Donc, d'un côté, pour que cet esprit de famille, pour que l'Église avance et que l'Église porte des fruits, ben, d'un côté, il y a la responsabilité des bergers. Ils doivent veiller absolument à ce que la bergerie aille bien, qu'elle soit protégée. Mais maintenant, du côté des fidèles, vous avez aussi des responsabilités. Les fidèles devraient davantage prier pour la protection spirituelle de leur berger. Il est exposé, le berger. Il est exposé, bien-aimé. L'ennemi fait tout pour faire tomber les bergers. Vous n'avez aucune idée et vous entendez ce qui se passe un peu partout aujourd'hui dans le monde. Des scandales de toutes sortes, de toute nature. Mais l'Église ne prie pas assez pour leurs bergers. Ici, c'est le cas, on prie beaucoup pour moi. Je le sens, je le vois. Merci Seigneur. Mais on doit continuer à prier pour les bergers, pour les protéger. C'est pour votre bien. Quand vous avez un berger qui est debout, quand vous avez un berger qui est droit, qui demeure dans les voies du Seigneur, vous êtes béni. Vous êtes béni, vous pouvez en être fier. Donc il y va de votre intérêt, parce que ça évite, d'une part, que ces gens ne tombent dans toutes sortes de péchés, mais ça évite aussi qu'ils tombent sous des influences qui les amènent à gober tout ce qui passe, tout ce qui est à la mode, etc., et apporter des faux enseignements dans l'Église et amener l'Église dans des compromissions de toutes sortes. Oui, la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Et c'est ça que je dis, c'est lourd comme responsabilité. Rendre compte pour toutes les âmes que le Seigneur t'a confiées, que tu n'as pas bien, tu rendras compte un jour. Et si on y pensait, c'est un travail qu'on doit prendre avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Donc, vous rendrez compte pour toutes ces âmes que le Seigneur vous a confiées. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Malheureusement, ce que je constate personnellement, c'est que les fidèles, de manière générale, sont parfois à la base de la chute de leur conducteur. Ils ne les protègent pas. Ils ne les gardent pas bien aimés à cause de la façon dont ils les élèvent. C'est, moi, je veux bien apprécier mon pasteur, mais je l'apprécie à sa juste limite. Mais je ne peux pas presque déifier. On assiste à des choses incroyables. Incroyables. Le pasteur, c'est un conducteur, c'est un élu de Dieu, il a une mission. Oui, vous lui devez obéissance, vous devez déférence, etc. Mais c'est ça. Ça devrait s'arrêter là, etc. Mais on ne peut pas les déifier. On ne peut pas les élever à un niveau. Ils deviennent orgueilleux. C'est comme si tout ce qui sort de leur bouche devient comme parole d'évangile. Non, bien-aimés. Donc, on ne doit pas les déifier. On ne doit pas les aduler. On ne doit pas les flatter outre mesure. Moi, ça me gêne, vous le savez. Je n'aime pas d'abord. Je n'aime pas ce genre de choses. Je suis bien comme je suis comme pasteur. Je suis bien comme ça. Mais d'élever quelqu'un là aux yeux des gens, donc c'est des erreurs qui se font et qu'on doit éviter absolument. Le dernier point que je voudrais apporter avant de passer à l'Assemblée Générale, c'est le manque de prière. Et là vous allez le voir encore dans le document justement que Cédric a préparé. Le manque de prière, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons mettre un accent. Les efforts sont souvent concentrés sur le social, c'est très bien. Le divertissement, les agapés, on aime les agapés. Moi aussi j'aime les agapés. C'est un moment unique dans une partie de l'année où on se retrouve, où on apprend à se connaître les uns les autres, etc. D'autres églises arrivent à faire des sorties récréatives. Ça nous est déjà arrivé aussi en été d'aller faire le pluchet de bledinde quelque part dans la cour de quelqu'un. C'est des choses qui peuvent se faire, mais on ne peut pas concentrer toute l'activité de l'Église sur le social. Pourtant, c'est dans la prière que les choses se passent. C'est dans la prière qu'on s'exerce au combat. C'est dans la prière qu'on se fortifie. C'est dans la prière qu'on reçoit du Seigneur la bonne direction pour qu'on soit sûr qu'on demeure sur la voie droite pour s'aligner sur sa volonté. C'est dans la prière. La prière est puissante. La prière ouvre des portes. Quand nous prions pour quelqu'un qui a besoin d'emploi, bien-aimés, nos prières ne montent pas en l'air. C'est ça que je disais tout à l'heure, qu'il y a le manque de foi. On ne croit plus à l'efficacité de la prière. On ne croit plus tellement à l'efficacité de la prière. Pourtant, la prière est efficace. Il y a une chose qui nous est arrivée, je n'avais même pas prévu de parler de ça, quelque chose, pour vous montrer la puissance de la prière. Il y a une chose qui nous est arrivée à un moment donné avec quelqu'un avec qui on était en affaires, locataire, je vais le dire comme ça, mais qui nous a mené la vie due. C'est très dur de vivre dans un immeuble avec quelqu'un qui vous crée la vie dure. Vous perdez la paix, vous risquez de... Nous avons prié avec elle. Nous avons prié. Donc, Seigneur, tu es capable de semer le trouble dans l'esprit de ces personnes qui nous font des problèmes. Tu es capable de semer le trouble, de faire en sorte qu'il y ait cette division. Que la personne qui est venue créer le trouble quitte. Ça, ce n'est pas la place. Nous avions notre propre locataire, mais qui a pris quelqu'un d'autre par la suite. Mais j'ai dit, Seigneur, crée le trouble. Tu es capable de le faire. Pour que cette personne reparte d'où elle est venue. Parce que... Mais laissez-moi vous dire qu'au bout de... Pas longtemps après, la personne d'abord a disparu. Disparu, on ne la voyait plus. Nous ne savions pas exactement ce qui s'était passé, mais nous avons continué à prier. Seigneur, est-ce qu'il y a un message que tu nous passes par ça? Est-ce qu'il, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a voyagé. Mais hier, pendant qu'on revenait de funérailles là-bas, j'ai trouvé un camion devant la maison en train de déménager les affaires de cette personne. Dieu répond à nos prières. Bien-aimés, c'était un dossier lourd pour moi, pour nous. C'était un dossier lourd. Mais Dieu est intervenu. Il est intervenu de manière inattendue. On ne pouvait pas imaginer que ça puisse se produire. Mais hier, j'ai vu. Je bénis le Seigneur hier, en revenant. Je bénis le Seigneur. Il répond à nos prières. Alors je vous encourage. Présentez vos requêtes. Présentez vos sujets. Venez vous joindre. Joignez votre voix à un moment de prière dans l'église et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Le manque de prière, nous ne devons pas concentrer sur le social. C'est la prière qui nous exerce au combat. Et rappelez-vous la décision qui a été prise par les apôtres justement quand ils voyaient que l'assemblée, l'église primitive, l'assemblée augmentait, beaucoup de gens, des veuves, des gens qui venaient avec beaucoup de besoins. Ils ont prié. Ils ont dit ceci, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est de la dispersion. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rendra un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, sain de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à quoi? À la prière et au ministère de la parole. La prière est importante dans une église. Amen. Alors c'est un encouragement que je vous fais là pour que vous puissiez aussi de temps en temps vous joindre à ce moment de prière. Même si vous priez à la maison, comme disait Cédric, il y a la prière individuelle qu'on peut faire, mais il y a aussi la prière de groupe qui a aussi son impact. Alors c'est important que nous puissions prendre cela. Donc travaillons bien-aimés et prions pour que toutes ces faiblesses que j'ai énoncées disparaissent et que des changements puissent avoir lieu partout où c'est nécessaire dans notre Église, et que nous nous appliquions à l'essentiel. C'était ça, le court message que j'avais ce matin. Donc, vous allez me dire qu'il peut paraître, je l'ai dit moi-même, il peut paraître comme une répétition de ce que nous avons dit les 3 derniers messages, et Cédric et moi-même, et ça peut paraître comme une répétition, mais c'est essentiel. C'est essentiel qu'on se le dise et je prie que donc vous accordiez toute l'attention voulue à cela et que nous voyons vraiment les retombées dans notre Église et surtout que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Amen.